L'état d'urgence prolongé de 3 mois, ça sert à quoi? Les réponses des représentants de l'État sur le territoire.
Depuis les attentats du 13 novembre, l'état d'urgence a été décrété par le président Hollande. Il a été prolongé pour 3 mois par un vote des députés et sénateurs. La loi sera promulguée en fin de semaine après une révision constitutionnelle. À noter que sur les 577 députés, 6 seulement ont voté contre. Vous pourrez d'ailleurs retrouver les arguments de l'une d'entre eux, Isabelle Allard, députée écologiste, sur notre site internet à la fin de ce reportage. Jeudi dernier, à Digne, la préfète du 04, Patricia Villart et le procureur Stéphane Quélin-Berger répondaient aux questions des maires dans un premier temps avant de tenir une conférence de presse à ce sujet. Que signifie cette mesure? Quelques explications non exhaustives. Le régime des assignations à résidence est étendu. Elles pourront désormais être prononcées non plus pour des personnes dont l'activité s'avère dangereuse, mais aussi pour celles dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Les perquisitions sans limitation horaire sont désormais la règle, ainsi qu'un renforcement de la surveillance et des contrôles orientés vers les zones dites les plus sensibles. Les lieux culturels et touristiques feront l'objet de renforcements de surveillance également. Les réservistes de la gendarmerie ont signalé leur disponibilité sur le site pour renforcer l'effectif, soit un effectif augmenté de 25%. Sur la base du volontariat, les policiers pourront d'ailleurs porter leur arme en dehors de leur zone de service, en dehors de leur heure de service, pendant l'état d'urgence à condition de respecter 3 conditions. Porter un brassard de police au moment de l'intervention, avoir accompli au moins un tir d'entraînement et déclarer à leurs supérieurs qu'ils conservent leurs armes. Parmi les mesures, des interdictions de circuler à certaines heures dans certaines zones du département, soit plus clairement l'autorisation de mettre en place des couvre-feux comme l'a déjà fait la commune de Sens dans l'Yonne. N'oublions pas le pouvoir de fermer des salles de spectacle s'il y a un risque et des mesures administratives donnant lieu à des perquisitions en présence de la police dans un objectif de recherche de saisie d'armes éventuelles, y compris une levée de doute. Dans la nuit de mercredi, il y a eu une perquisition et il y en aura d'autres, souligne d'ailleurs la préfète Patricia Villart. Enfin, l'état d'urgence autorise les préfets à interdire, je cite, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre. De nombreuses manifestations ont été annulées, notamment toutes les marches citoyennes pour le climat prévues le 29 novembre à l'aube de la COP21. Pendant la réunion avec les maires, il a été rappelé aux premiers magistrats du territoire d'augmenter leur vigilance et de tenir informé les services de police des événements suscitant des rassemblements et plus encore à l'approche des fêtes de Noël et plus près de nous, des nombreuses manifestations qui y sont prévues en faveur du Téléthon et programmées début décembre. Au micro d'Odile Frison, je vous propose d'écouter la préfète Patricia Villart puis le procureur Stéphane Quélin-Berger.
Madame le préfet, qu'est-ce que signifie l'état d'urgence concrètement pour la vie des citoyens?
Alors l'état d'urgence, ce sont des mesures exceptionnelles pour renforcer la sécurité de nos concitoyens et qui sont une réponse à cette situation de guerre que nous connaissons contre l'État islamique. On est en situation de guerre avec des moyens qui sont particuliers puisque c'est une lutte contre le terrorisme sur notre sol, une situation de guerre vis-à-vis de l'extérieur puisqu'on est présent sur des théâtres d'opérations extérieurs. L'état d'urgence est une réponse particulière à cet état de guerre qui permet de renforcer l'efficacité de la réponse de l'État en donnant des pouvoirs accrus sur un mode administratif notamment au préfet. Donc pour pouvoir aller plus vite à ce travail qui a commencé depuis de longues années de renseignement sur la radicalisation, sur le terrorisme et qui permet depuis le 13 novembre d'avoir un arsenal de mesures qui donne une réponse rapide et qui renforce la possibilité d'action des services de police, de gendarmerie et des services spécialisés de sécurité. Ces mesures, elles sont des mesures qui peuvent aller sur de la restriction de liberté publique, des restrictions d'aller et venir, des restrictions de sortie, c'est un dispositif de couvre-feu. Évidemment, elles sont proportionnées, circonstanciées. Et puis, on a un deuxième arsenal de mesures qui sont des perquisitions administratives qui permettent de contrôler des lieux, de perquisitionner sans qu'il y ait besoin d'avoir une heure particulière, donc toute heure du jour et de la nuit, de perquisitionner des locaux dès lors qu'il peut y avoir un lien avec une islamisation, l'islamisme radical ou une radicalisation d'une personne. On est sur des perquisitions de locaux, on le fait en lien direct avec le procureur qui est informé sans délai, ce qui permet de basculer sur une procédure judiciaire dès lors qu'on est amené à découvrir, par exemple, des stupéfiants, puisque, comme vous le savez, il y a une porosité extrême entre le banditisme et les milieux de la radicalisation et du terrorisme.
Au point de vue du département, il n'y a pas plus de risques. C'est vraiment les risques sont sur le plan national.
Les risques sont nationaux, évidemment. La différence, c'est que les attentats sont déterminés de l'extérieur d'une manière totalement aléatoire dans le lieu, dans la géographie et dans la cible. Ce sont des gens qui peuvent être n'importe quel citoyen. Et il n'y a aucune partie du territoire français qui peut s'estimer exempte de cette menace. Donc la menace, elle couvre tout le territoire français. Évidemment, il y a des lieux qui sont plus sensibles que d'autres, dès les grandes villes, les grands rassemblements de personnes, mais aucun endroit du territoire n'est exempt de cette menace. Donc le plan Vigipirate, les mesures de l'état d'urgence, nous les déclinons complètement dans le département comme dans les autres départements. Donc j'ai moi-même ordonné une perquisition, j'y étais la nuit dernière, j'en ordonnerai d'autres au service de police et de gendarmerie. Elles ont l'intérêt effectivement de vérifier, de permettre une levée de doute ou d'enclencher une procédure.
Certains partis politiques et citoyens s'inquiètent des mesures liberticides que pourrait entraîner la prolongation de l'état d'urgence. Qu'en pensez-vous ?
Alors l'état d'urgence est décrété pour 12 jours, mais il va être prolongé puisqu'il y a un projet de loi qui prévoit de l'étendre pendant 3 mois. Il a été voté, examiné en Conseil des ministres, il avait été voté à l'Assemblée, il passe demain au Sénat. Cette prolongation devrait s'opérer sur les 3 mois à compter des 12 premiers jours. Il est certain que c'est une mesure exceptionnelle, donc forcément elle entrave une partie des libertés, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, il faut qu'on réponde à la menace. Encore une fois, on est dans une situation de guerre qui est asymétrique puisque l'attaque, elle se traduit sur le sol français par des attentats, mais c'est une situation de guerre. Il faut donc des mesures exceptionnelles et l'état d'urgence permet ces mesures exceptionnelles qui donnent une réponse rapide, efficace, beaucoup plus importante pour les services de sécurité.
Une augmentation des perquisitions administratives pour éventuellement trouver des armes.
L'ordre de perquisition, il vise une adresse. Il peut viser également les locaux communs, les parties communes des immeubles, les véhicules attenant à l'adresse, etc. À l'occasion de cette perquisition, où est présent toujours un officier de police judiciaire, on peut très vite, à la faveur de ceux qu'on trouve, basculer sur une procédure judiciaire, par exemple le trafic de stupéfiants, les armes. Il y a des saisies administratives des armes, mais on bascule très vite sur une procédure judiciaire s'il y a lieu. La clé d'entrée, je dirais, de levée de doute ou au contraire de renforcement du doute, elle se déclenche très vite sur un portage judiciaire avec les garanties judiciaires de la justice que cela comporte. Mais aussi, la présence des forces de l'ordre sur un site, ça peut être, je parle d'une manière générale, ça peut être aussi lié à un vol à main armée, à du grand banditisme. Et s'y ajoutent maintenant des contrôles qui sont aussi liés à l'état d'urgence, à la menace. Donc là encore, il est extrêmement important qu'il n'y ait pas de signalement par des usagers de la route de la présence des forces de police et de la gendarmerie à d'autres usagers. Parce que certains peuvent être des gens qu'il serait pertinent de pouvoir contrôler. Donc, encore une fois, dites surtout de ne pas signaler par des appels de phare la présence au bord des routes des services de police et de gendarmerie. Encore une fois, on est dans une situation exceptionnelle, avec des moyens exceptionnels, et la menace, elle est protéiforme et partout.
Cet état d'urgence donc vient d'être prolongé, ou est sur le point de l'être, mais par le Parlement. C'est donc par voie législative que les choses sont évidemment faites dans une démocratie comme la nôtre. Dès lors, il y a en effet quelques pouvoirs exorbitants du droit commun habituel, et notamment ces perquisitions administratives que l'état d'urgence des 12 jours initiaux permettent déjà, en particulier cette articulation pour, dans une première phase administrative, non pas rechercher une infraction, ce qui est évidemment et nécessairement judiciaire, mais vérifier des situations préoccupantes ou des suspicions pour une levée de doute. Et si en revanche, à l'initiative donc du préfet, ces perquisitions administratives dont je suis informé préalablement et pendant et suivant débouchent sur la découverte d'infractions pénales, alors dans ce cas, l'enquête bascule en la forme judiciaire pour pouvoir prendre des gardes à vue et toute poursuite pénale utile allant jusqu'à, au maximum, dans la circonstance actuelle, la saisine du parquet de Paris et de sa section antiterroriste.
Que faire pour rassurer les concitoyens ?
Je pense que dans les Alpes de Haute-Provence, le risque n'est fort heureusement pas spécifique. Il est en revanche un risque global, c'est-à-dire que nous nous incluons pleinement, hélas, dans le risque national Mais ce qui est important, c'est de savoir que les services de l'État, la justice, les forces de sécurité sont pleinement en coordination, en articulation les unes avec les autres, plus encore qu'à l'accoutumée, pour pouvoir justement à la fois veiller et réagir au plus près, au plus vite. Raison pour laquelle, lors de cette réunion que nous venons d'avoir importante avec tous les élus et maires de ce département, nous avons fait passer le message de la nécessité d'une bonne, fluide, rapide remontée d'informations préoccupantes qui pourraient être signalées au service de police, au service de gendarmerie, voire directement à mon parquet, et bien entendu au service de l'État, quand il y a nécessité. En tout état de cause, nous avons trouvé des maires que j'ai trouvés assurés, pondérés, prêts, de manière unie et rassemblée, à répondre à cette situation exceptionnelle, grave, sombre, il est vrai, mais pour autant, nous devons continuer à vivre. Et c'est au fond la devise de la République, liberté, égalité, fraternité.